Madame, mademoiselle, monsieur, ravi de vous retrouver sur Radio Kardec. À l'entame de cette première émission de février 2010, nous remercions toutes celles et ceux qui, suivant l'actualité dramatique de ces derniers jours, adressent leur soutien aux frères et sœurs de la ville de Liège suite à ce terrible drame de la rue Léopold. Ainsi, bien sûr, qu'à toutes les victimes. Une pensée pour ceux qui ont perdu un être cher, à ceux qui ont tout perdu et qui recherchent un toit pour leur famille. Hommage et recueillement, individuel ou collectif, vendredi 5 février 2010. Un numéro de compte a été ouvert ce lundi par le receveur du CPAS de Liège, au profit des sinistrés de cette catastrophe. Tout don financier peut être versé sur le compte 091 01 99 99 8 trait d'union 13 avec la mention Solidarité Sinistré Liège. Ce numéro de compte a été ouvert à la suite de nombreuses demandes de citoyens désireux de venir en aide aux sinistrés. Pour rappel, environ 500 personnes au total sont actuellement dans l'incapacité de recouvrer leur logement, qui est soit détruit dans l'explosion, soit situé dans le périmètre de sécurité. Les dons en vêtements ont afflué, ils ne sont désormais plus nécessaires. En revanche, appel est fait auprès des associations et des particuliers pour des dons en espèces et surtout du mobilier. La plupart des logements proposés à court ou à long terme en étant dépourvus. Merci de votre soutien. Nous reprenons le cours normal de cette émission en cédant la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirite de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la Genèse. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle vous invite à poursuivre le chapitre 9 traitant des révolutions du globe et plus particulièrement des révolutions périodiques des points 10 à 14.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 9 Révolutions du globe, suite des révolutions périodiques. Point 10. Le déplacement lent, graduel et périodique de la mer est un fait acquis à l'expérience et attesté par de nombreux exemples sur tous les points du globe. Il a pour conséquence l'entretien des forces productives de la terre. Cette longue immersion est un temps de repos pendant lequel les terres submergées récupèrent les principes vitaux épuisés par une production non moins longue. Les immenses dépôts de matière organique formés par le séjour des eaux durant des siècles de siècles, sont des engrais naturels périodiquement renouvelés et les générations se succèdent sans s'apercevoir de ces changements. Remarque. Parmi les faits les plus récents qui prouvent le déplacement de la mer, on peut citer les suivants. Dans le golfe de Gascogne, entre le vieux Soulac et la tour de Cordouan, quand la mer est calme, on découvre au fond de l'eau des pans de murailles. Ce sont les restes de l'ancienne et grande ville de Noviomagus, envahie par les flots en 1680. Le rocher de Cordouan, qui était alors relié au rivage, en est maintenant à 12 kilomètres. Dans la mer de la Manche, sur la côte du Havre, la mer gagne chaque jour du terrain et mine les falaises de 7 adresses qui s'écroulent petit à petit. À 2 km de la côte, entre cette adresse et le cap de la Hève, existe le banc de l'Éclat, jadis à découvert et réuni à la terre ferme. D'anciens documents constatent que sur cet emplacement, où l'on navigue aujourd'hui, il y avait le village de Saint-Denis-Chef-de-Caux. La mer ayant envahi le terrain au XIVe siècle, l'église fut engloutie en 1378. On prétend qu'on envoie les restes au fond de l'eau par un temps calme. Sur presque toute l'étendue du littoral de la Hollande, la mer n'est retenue qu'à force de digues, qui se rompent de temps en temps. L'ancien lac Flevaux réunis à la mer en 1225, forment aujourd'hui le golfe de Zuiderzee. Cette éruption de l'océan engloutit plusieurs villages. D'après cela, le territoire de Paris et de la France serait un jour de nouveau occupé par la mer, comme il l'a déjà été à plusieurs fois, ainsi que le prouvent les observations géologiques. Les parties montagneuses formeront alors des îles, comme le sont maintenant Jersey, Guernesey et l'Angleterre, autrefois contiguë au continent. On naviguera au-dessus des contrées que l'on parcourt aujourd'hui en chemin de fer. Les navires aborderont à Montmartre, au Mont Valérien, au coteau de Saint-Cloud et de Meudon. Les bois et les forêts où l'on se promène seront ensevelis sous les eaux, recouverts de limaux et peuplés de poissons au lieu d'oiseaux. Le déluge biblique ne peut avoir eu cette cause, puisque l'invasion des eaux a été subite et leur séjour de courte durée, tandis qu'autrement, elle a été de plusieurs milliers d'années et durerait encore, sans que les hommes s'en fussent aperçus. Fin de la remarque. Cataclysme futur. Point 11. Les grandes commotions de la Terre ont eu lieu à l'époque où la croûte solide, par son peu d'épaisseur, n'offrait qu'une faible résistance à l'effervescence des matières incandescentes de l'intérieur. On les a vues diminuer d'intensité et de généralité à mesure que la croûte s'est consolidée. De nombreux volcans sont maintenant éteints, d'autres ont été recouverts par les terrains de formation postérieure. Il pourra certainement encore se produire des perturbations locales par suite d'éruptions volcaniques, d'ouverture de quelques nouveaux volcans, d'inondations subites de certaines contrées. Quelques îles pourront sortir de la mer et d'autres s'y abîmer. Mais le temps des cataclysmes généraux, comme ceux qui ont marqué les grandes périodes géologiques, est passé. La Terre a pris une assiette qui, sans être absolument invariable, met désormais le genre humain à l'abri des perturbations générales, à moins de causes inconnues, étrangères à notre globe, et que rien ne saurait faire prévoir. Point 12. Quant aux comètes, on est aujourd'hui pleinement rassuré sur leur influence, plus salutaire que nuisible, en ce qu'elles paraissent destinées à ravitailler, si l'on peut s'exprimer ainsi, les mondes en leur reportant les principes vitaux qu'elles ont ramassés pendant leur course à travers l'espace et dans le voisinage des soleils. Elles seraient ainsi des sources de prospérité plutôt que des messagères de malheur. Par leur nature fluidique, aujourd'hui bien constatée, voir chapitre 6, numéro 28 et suivant, un choc violent n'est pas à craindre. Car, dans le cas où l'une d'elles rencontrerait la Terre, ce serait cette dernière qui passerait à travers la comète, comme à travers un brouillard. Leur queue n'est pas plus redoutable, elle n'est que la réflexion de la lumière solaire dans l'immense atmosphère qui les environne, puisqu'elle est constamment dirigée du côté opposé au Soleil et change de direction suivant la position de cet astre. Cette matière gazeuse pourrait bien aussi, par suite de la rapidité de leur marche, former une sorte de chevelure comme le sillage à la suite d'un navire ou la fumée d'une locomotive. Du reste, plusieurs comètes se sont déjà rapprochées de la Terre sans y causer aucun dommage. Et en raison de leur densité respective, la Terre exercerait sur la comète une attraction plus grande que la comète sur la Terre. Un reste de vieux préjugés peut seul inspirer des craintes sur leur présence. Remarque. La comète de 1861 a traversé la route de la Terre à 20 heures de distance en avant de celle-ci, qui a dû se trouver plongée dans son atmosphère sans qu'il en soit résulté aucun accident. Fin de la remarque. Point 13. Il faut également reléguer parmi les hypothèses chimériques la possibilité de la rencontre de la Terre avec une autre planète. La régularité et l'invariabilité des lois qui président au mouvement des corps célestes ôtent à cette rencontre toute probabilité. La Terre, cependant, aura une fin. Comment ? C'est ce qui est dans le domaine des conjectures. mais comme elle est encore loin de la perfection qu'elle peut atteindre et de la vétusté qui serait un signe de déclin, ses habitants actuels sont assurés que ce ne sera pas de leur temps. Voir chapitre 6, numéro 48 et suivant. Point 14. Physiquement, la Terre a eu les convulsions de son enfance. Elle est entrée désormais dans une période de stabilité relative. Dans celle du progrès paisible, qui s'accomplit par le retour régulier des mêmes phénomènes physiques et le concours intelligent de l'homme. Mais elle est encore en plein dans le travail de l'enfantement du progrès moral. Là sera la cause de ses plus grandes commotions. Jusqu'à ce que l'humanité ait suffisamment grandi en perfection par l'intelligence et la mise en pratique des lois divines, les plus grandes perturbations seront le fait des hommes plus que de la nature, c'est-à-dire seront plutôt morales et sociales que physiques. Accroissement ou diminution du volume de la Terre. Point 15. Le volume de la Terre augmente-t-il, diminue-t-il ou est-il stationnaire? À l'appui de l'accroissement du volume de la Terre, quelques personnes se fondent sur ce que les plantes rendent au sol plus qu'elles n'en tirent, ce qui est vrai dans un sens et non dans l'autre. Les plantes se nourrissent autant et même plus des substances gazeuses qu'elles puisent dans l'atmosphère que de celles qu'elles aspirent par leurs racines. Or, l'atmosphère fait partie intégrante du globe. Les gaz qui la constituent proviennent de la décomposition des corps solides, et ceux-ci, en se recomposant, lui reprennent ce qu'il lui avait donné. C'est un échange, ou plutôt une transformation perpétuelle, de telle sorte que l'accroissement des végétaux et des animaux, s'opérant à l'aide des éléments constitutifs du globe, leurs débris, quelque considérable qu'il soit, n'ajoute pas un atome à la masse. Si la partie solide du globe augmentait par cette cause d'une manière permanente, ce serait aux dépens de l'atmosphère qui diminuerait d'autant et finirait par être impropre à la vie si elle ne récupérait par la décomposition des corps solides ce qu'elle perd par leur composition.
Poursuivons notre lecture du jour par le 9e chapitre de la Genèse, traitant de l'accroissement ou diminution du volume de la Terre, des points 15, et chapitre 10, Genèse organique, des points 1 à 5.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 9, Révolution du globe, accroissement ou diminution du volume de la Terre, suite du point 15. À l'origine de la Terre, les premières couches géologiques se sont formées de matières solides momentanément volatilisées par l'effet de la haute température et qui, plus tard, condensées par le refroidissement, se sont précipitées. Elles ont incontestablement élevé quelque peu la surface du sol, mais sans rien ajouter à la masse totale, puisque ce n'était qu'un déplacement de matière. Lorsque l'atmosphère, purgée des éléments étrangers qu'elle tenait en suspension, s'est trouvée à son état normal, les choses ont suivi le cours régulier qu'elles ont eu depuis. Aujourd'hui, la moindre modification dans la constitution de l'atmosphère amènerait forcément la destruction des habitants actuels. Mais probablement aussi, il se formerait de nouvelles races dans d'autres conditions. Considérée à ce point de vue, la masse du globe, c'est-à-dire la somme des molécules qui composent l'ensemble de ses parties solides, liquides et gazeuses, est incontestablement la même depuis son origine. S'il éprouvait une dilatation ou une condensation, son volume augmenterait ou diminuerait, sans que la masse subît aucune altération. Si donc la Terre augmentait de masse, ce serait par l'effet d'une cause étrangère, puisqu'elle ne pourrait puiser en elle-même les éléments nécessaires à son accroissement. Selon une opinion, le globe augmenterait de masse et de volume par l'afflux de la masse cosmique interplanétaire. Cette idée n'a rien d'irrationnel, mais elle est trop hypothétique pour être admise en principe. Ce n'est qu'un système combattu par des systèmes contraires sur lesquels la science n'est nullement fixée. Voici, sur ce sujet, l'opinion de l'éminent esprit qui a dicté les savantes études uranographiques rapportées ci-dessus au chapitre 6. Les mondes s'épuisent en vieillissant et tendent à se dissoudre pour servir d'éléments de formation à d'autres univers. Ils rendent peu à peu au fluide cosmique universel de l'espace ce qu'ils en ont tiré pour se former. En outre, tous les corps s'usent par le frottement, le mouvement rapide et incessant du globe à travers le fluide cosmique a pour effet d'en diminuer constamment la masse, bien que d'une quantité inappréciable dans un temps donné. Remarque. Dans ce mouvement de translation autour du Soleil, la vitesse de la Terre est de 400 lieues par minute. Sa circonférence étant de 9000 lieues dans son mouvement de rotation sur son axe, chaque point de l'équateur parcourt 9000 lieues en 24 heures, ou 6,3 lieues par minute. Fin de la remarque. L'existence des mondes peut, selon moi, se diviser en trois périodes. Première période, condensation de la matière pendant laquelle le volume du globe diminue considérablement, la masse restant la même. C'est la période de l'enfance. Seconde période, contraction, solidification de l'écorce, éclosion des germes, développement de la vie jusqu'à l'apparition du type le plus perceptible. À ce moment, le globe est dans toute sa plénitude, c'est l'âge de la virilité. Il perd, mais très peu, de ses éléments constitutifs. À mesure que ses habitants progressent spirituellement, ils passent à la période de décroissance matérielle. Il perd non seulement par suite du frottement, mais aussi par la désagrégation des molécules, comme une pierre dure qui, rongée par le temps, finit par tomber en poussière. Dans son double mouvement de rotation et de translation, il laisse à l'espace des parcelles fluidiques de sa substance jusqu'au moment où sa dissolution sera complète. Mais alors, comme la puissance attractive est en raison de la masse, je ne dis pas du volume, la masse du globe diminuant, ses conditions d'équilibre dans l'espace sont modifiées. Dominé par des globes plus puissants auxquels il ne peut plus faire contrepoids, il en résulte des déviations dans ses mouvements, et par suite aussi de profonds changements dans les conditions de la vie à sa surface. Ainsi, naissance, vie et mort, ou enfance, virilité, décrépitude, telles sont les trois phases par lesquelles passe toute agglomération de matière organique ou inorganique. L'esprit seul, qui n'est point matière, est indestructible. Entre parenthèses, Galilée, Société de Paris, 1868. Faites la parenthèse. Chapitre 10. Genèse organique. Première formation des êtres vivants. Point 1. Il fut un temps où les animaux n'existaient pas, donc ils ont commencé. On a vu paraître chaque espèce à mesure que le globe acquérait les conditions nécessaires à son existence. Voilà qui est positif. Comment se sont formés les premiers individus de chaque espèce? On comprend qu'un premier couple étant donné, les individus se soient multipliés. Mais ce premier couple, d'où est-il sorti? C'est là un de ces mystères qui tiennent au principe des choses et sur lesquels on ne peut faire que des hypothèses. Si la science ne peut encore résoudre complètement le problème, elle peut tout au moins mettre sur la voie. Point 2. Une première question qui se présente est celle-ci. Chaque espèce animale est-elle d'un premier couple ou de plusieurs couples créés ou, si l'on veut, germer simultanément en différents lieux. Cette dernière supposition est la plus probable. On peut même dire qu'elle ressort de l'observation. En effet, l'étude des couches géologiques atteste la présence, dans les terrains de même formation, et cela dans des proportions énormes, de la même espèce sur les points les plus éloignés du globe. Cette multiplication si générale et en quelque sorte contemporaine eût été impossible avec un type primitif unique. D'un autre côté, la vie d'un individu, surtout d'un individu naissant, est soumise à tant d'éventualités que toute une création aurait pu être compromise sans la pluralité des types, ce qui impliquerait une imprévoyance inadmissible de la part du souverain créateur. D'ailleurs, si un type a pu se former sur un point, il peut s'en être formé sur plusieurs points par la même cause. Tout concourt donc à prouver qu'il y a eu création simultanée et multiple des premiers couples de chaque espèce animale et végétale. Point 3. La formation des premiers êtres vivants peut se déduire, par analogie, de la même loi d'après laquelle se sont formés et se forment tous les jours les corps inorganiques. À mesure qu'on approfondit les lois de la nature, on en voit les rouages qui, au premier abord, paraissent si compliqués, se simplifier et se confondre dans la grande loi d'unité qui préside à toute l'œuvre de la création. On le comprendra mieux quand on se sera rendu compte de la formation des corps inorganiques qui en est le premier degré. Point 4. La chimie considère comme élémentaire un certain nombre de substances telles que l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le carbone, le chlore, l'ionde, le fluor, le soufre, le phosphore et tous les métaux. Par leur combinaison, ils forment les corps composés, les oxydes, les acides, les alcalis, les sels et les innombrables variétés qui résultent de la combinaison de ceux-ci. La combinaison de deux corps pour en former un troisième exige un concours particulier de circonstances, soit un degré déterminé de chaleur, de sécheresse ou d'humidité, soit le mouvement ou le repos, soit un courant électrique, etc. Si ces conditions n'existent pas, la combinaison n'a pas lieu. Point 5. Lorsqu'il y a combinaison, les corps composants perdent leurs propriétés caractéristiques, tandis que le composé qui en résulte en possède de nouvelles, différentes de celles des premiers. C'est ainsi, par exemple, que l'oxygène et l'hydrogène, qui sont des gaz invisibles, étant combinés chimiquement, forment l'eau, qui est liquide, solide ou vaporeuse, selon la température. Dans l'eau, il n'y a plus, à proprement parler, d'oxygène ni d'hydrogène, mais un nouveau corps. Cette eau étant décomposée, les deux gaz, redevenus libres, recouvrent leurs propriétés, et il n'y a plus d'eau. La même quantité d'eau peut être ainsi alternativement décomposée et recomposée à l'infini.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la suite de la Genèse organique des points 6 à 13.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 10, Genèse organique, première formation des êtres vivants. Point 6. La composition et la décomposition des corps ont lieu par suite du degré d'affinité que les principes élémentaires ont les uns pour les autres. La formation de l'eau, par exemple, résulte de l'affinité réciproque de l'oxygène et de l'hydrogène. Mais si l'on met en contact avec l'eau un corps ayant pour l'oxygène plus d'affinité que celui-ci n'en a pour l'hydrogène, l'eau se décompose. L'oxygène est absorbé, l'hydrogène devient libre et il n'y a plus d'eau. Point 7. Les corps composés se forment toujours en proportion définie, c'est-à-dire par la combinaison d'une quantité déterminée des principes constituants. Ainsi, pour former l'eau, il faut une partie d'oxygène et deux d'hydrogène. Si deux parties d'oxygène sont combinées avec deux d'hydrogène, au lieu d'eau, on obtient le deutoxyde d'hydrogène, liquide corrosif, formé cependant des mêmes éléments que l'eau, mais dans une autre proportion. Point 8. Telle est, en peu de mots, la loi qui préside à la formation de tous les corps de la nature. L'innombrable variété de ces corps résulte d'un très petit nombre de principes élémentaires combinés dans des proportions différentes. Ainsi, l'oxygène, combiné dans certaines proportions avec le carbone, le soufre, le phosphore, forme les acides carboniques, sulfuriques, phosphoriques. L'oxygène et le fer forment l'oxyde de fer ou rouille. L'oxygène et le plomb, tous les deux inoffensifs, donnent lieu aux oxydes de plomb, tels que la litharge, le blanc de céruse, le minium, qui sont vénéneux. L'oxygène, avec les métaux appelés calcium, sodium, potassium, forme la chaux, la soude, la potasse. La chaux, unie à l'acide carbonique, forme les carbonates de chaux ou pierres calcaires, tels que le marbre, la craie, la pierre à bâtir, les stalactites des grottes. Unie à l'acide sulfurique, elle forme le sulfate de chaux ou plâtre et l'albâtre. À l'acide phosphorique, le phosphate de chaux, base solide des eaux. Le chlore et l'hydrogène forment l'acide chlorhydrique ou hydrochlorique. Le chlore et le sodium forment le chlorure de sodium ou sel marin. Point 9. Toutes ces combinaisons et des milliers d'autres s'obtiennent artificiellement, en petit, dans les laboratoires de chimie. Elles s'opèrent spontanément, en grand, dans le grand laboratoire de la nature. La Terre, à son origine, ne contenait pas ces matières combinées, mais seulement leurs principes constituants volatilisés. Lorsque les terres calcaires et autres, devenues à la longue pierreuses, se sont déposées à sa surface, elles n'existaient point toutes formées. Mais dans l'air se trouvaient, à l'état gazeux, toutes les substances primitives. Ces substances, précipitées par l'effet du refroidissement, sous l'empire de circonstances favorables, se sont combinées suivant le degré de leur affinité moléculaire. C'est alors que se sont formées les différentes variétés de carbonate, de sulfate, etc., d'abord en dissolution dans les eaux, puis déposées à la surface du sol. Supposons que, par une cause quelconque, la Terre revienne à son état d'incandescence primitive, tout cela se décomposerait. Les éléments se sépareraient. Toutes les substances fusibles se fondraient. Toutes celles qui sont volatilisables se volatiliseraient. Puis un second refroidissement amènerait une nouvelle précipitation et les anciennes combinaisons se formeraient à nouveau. Point 10. Ces considérations prouvent combien la chimie était nécessaire pour l'intelligence de la Genèse. Avant la connaissance des lois de l'affinité moléculaire, il était impossible de comprendre la formation de la Terre. Cette science a éclairé la question d'un jour tout nouveau, comme l'astronomie et la géologie l'ont fait à d'autres points de vue. Point 11. Dans la formation des corps solides, un des phénomènes les plus remarquables est celui de la cristallisation qui consiste dans la forme régulière qu'affectent certaines substances lors de leur passage de l'état liquide ou gazeux à l'état solide. Cette forme, qui varie selon la nature de la substance, est généralement celle de solides géométriques tels que le prisme, le rhomboïde, le cube, la pyramide. Tout le monde connaît les cristaux de sucre cordy. Les cristaux de roche ou silice cristallisés sont des prismes à six pans terminés par une pyramide également hexagonale. Le diamant est du carbone pur ou charbon cristallisé. Les dessins qui se produisent sur les vitres en hiver sont dus à la cristallisation de la vapeur d'eau, pendant la congélation sous forme d'aiguilles prismatiques. La disposition régulière des cristaux tient à la forme particulière des molécules de chaque corps. Ces parcelles, infiniment petites pour nous, mais qui n'en occupent pas moins un certain espace, sollicitées les unes vers les autres par l'attraction moléculaire, s'arrangent et se juxtaposent selon l'exigence de leur forme, de manière à prendre chacune sa place autour du noyau ou premier centre d'attraction et à former un ensemble symétrique. La cristallisation ne s'opère que sous l'empire de certaines circonstances favorables, en dehors desquelles elle ne peut avoir lieu. Le degré de la température et le repos sont des conditions essentielles. On comprend qu'une trop forte chaleur, tenant les molécules écartées, ne leur permettrait pas de se condenser, et que l'agitation s'opposant à leur arrangement symétrique, elles ne formeraient qu'une masse confuse et irrégulière, et partant, pas de cristallisation proprement dite. Point 12. La loi qui préside à la formation des minéraux conduit naturellement à la formation des corps organiques. L'analyse chimique nous montre toutes les substances végétales et animales composées des mêmes éléments que les corps inorganiques. Ceux de ces éléments qui jouent le principal rôle sont l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone. Les autres ne s'y trouvent qu'accessoirement. Comme dans le règne minéral, la différence de proportion dans la combinaison de ces éléments produit toutes les variétés de substances organiques et leurs propriétés diverses telles que les muscles, les os, le sang, la bile, les nerfs, la matière cérébrale, la graisse chez les animaux, la sève, le bois, les feuilles, les fruits, les essences, les huiles, les résines, etc. dans les végétaux. Ainsi, dans la formation des animaux et des plantes, il n'entre aucun corps spécial qui ne se trouve également dans le règne minéral. Remarque. Le tableau ci-après, de l'analyse de quelques substances, montre la différence des propriétés qui résulte de la seule différence dans la proportion des éléments constituants. Sur 100 parties, dans le sucre de canne, il y a 42,470 parties de carbone, 6,900 parties d'hydrogène, 50,630 parties d'oxygène. Dans le sucre de raisin, 36,710 parties de carbone, 6,780 parties d'hydrogène, 56,510 parties d'oxygène. Dans l'alcool, 51,980 parties de carbone, 13,700 parties d'hydrogène, 34,320 parties d'oxygène. Dans l'huile d'olive, 77,210 parties de carbone, 13,360 parties d'hydrogène et 9,430 parties d'oxygène. Dans l'huile de noix, 79,774 parties de carbone, 10,570 parties d'hydrogène, 9,122 parties d'oxygène et 0,534 parties d'azote. Dans la graisse, 78,996 parties de carbone, 11,700 parties d'hydrogène, 9,304 parties d'oxygène. Dans la fibrine, 53,360 parties de carbone, 7,021 parties d'hydrogène, 19,685 parties d'oxygène et 19,934 parties d'azote. Fin de la remarque.
Comme signalé lors de notre précédente émission, le site du centre Le Chemin à Paris a disparu quelques jours suite à l'attaque d'un hacker qui a réussi à s'infiltrer dans les mécanismes du site pour y perpétrer des actes malveillants. Cela a conduit notre frère Pierre Tchenge, administrateur principal, à devoir tout reprendre depuis la base. Effectivement, de nombreux petits points techniques restaient à régler. Mais pour y parvenir, il fallait mettre les mains dans le cambouis. C'est chose faite. Petit à petit, donc, le site va se reconstruire. Il faut savoir que le forum recommencera à zéro, vierge de tout message. Les dossiers et autres textes publiés sont de nouveau en ligne, expurgés des erreurs de caractère liées aux exportations et importations de bases de données. Le reste suivra au fil des jours. N'hésitez donc pas à passer régulièrement afin de voir la progression des travaux. Pour rappel, l'adresse du site est la suivante, www.centrelechemin.fr. En France, l'association Du Chemin vous informe de la prochaine conférence sur le thème « La réincarnation » qui aura lieu le 20 février à 14h30 dans son local, salle AEP, 5 rue de l'Artisanat, à 69 290 Grézieux-la-Varenne. Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de la lecture du mois « Message au semeur », ainsi que pour ceux qui n'ont pu assister à la conférence précédente sur le magnétisme, la synthèse de celle-ci qui pourra être téléchargée à l'adresse suivante www.le-chemin.org. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.